Europe 1. Europe 1.
C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Esther Creuser-Delbourg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste spécialisée dans les questions de ressources en eau. Il a beaucoup plu ces dernières semaines, aux grandes dames des Parisiens d'ailleurs. Enfin, il n'y a pas que les Parisiens. On se dit au moins c'est bon pour les nappes phréatiques. Est-ce que c'est le cas ?
Alors, on a vu aujourd'hui dans les dernières cartes du BRGM que beaucoup de nappes phréatiques se sont rechargées en France. C'est une bonne nouvelle. Il reste quand même le sud et une partie de l'Alsace où c'est encore en deçà des normales. Donc, la pluie, en fait, n'a pas suffi à recharger ces nappes. Mais attention, parce que quand on regarde le climat ou la météo en général, la pluie n'est seulement qu'une partie du paysage global qu'il faut regarder. En fait, la pluie toute seule ne suffit pas à simplement régler les problèmes que nous avons. Il faut regarder d'autres paramètres, comme par exemple la température, pour pouvoir comprendre si vraiment tout va bien ou s'il y a encore des problèmes.
Alors, on va regarder tous ces paramètres. Mais d'abord, vous m'avez dit un jour que la pluie, au fond, tombe toujours dans les mêmes proportions dans un pays comme le nôtre, simplement sur moins de jours qu'avant.
Oui, on estime que la quantité de pluie qu'on reçoit en France reste globalement stable en fait, d'année en année, mais que cette pluie, elle est plus concentrée sur moins de jours, et en plus, elle est évidemment inégalement répartie sur le territoire, ce qui veut dire que quand il pleut, eh bien, il pleut plus. Et évidemment, tout ça est accéléré par le changement climatique, le fait qu'il fait davantage chaud et plus de chaleur, ça veut dire plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère et donc des pluies encore plus fortes.
D'accord. Alors, est-ce que ça suffit à recharger complètement les nappes phréatiques ? Elles sont pleines aujourd'hui ? Elles débordent ou ça n'est pas à ce point ?
Alors bon, déjà, une nappe, c'est vrai que ça ne déborde pas. On entend souvent le dire, mais c'est important de le dire, que ça ne déborde pas. Mais en fait, il y a différents types de nappes. Il y a des nappes qui se rechargent très rapidement ou des nappes qui sont plus inertes, qui mettent plus de temps à se recharger. Et souvent, c'est celle-ci où il y a plus de problèmes. Notamment, on a parlé du sud de la France. On va dire en Languedoc, en Occitanie, les nappes sont toujours à des niveaux quand même assez bas. Pareil en Alsace. Donc, c'est bien quand même que le reste de la France soit rechargé. Mais attention, il peut aussi y avoir des problèmes avec une nappe pleine parce qu'elle peut aussi être polluée. Donc, il y a d'autres problèmes à regarder.
D'accord. Alors, on ne va pas regarder que les nappes phréatiques. Hein. La végétation, par exemple, est-ce qu'elle a été abîmée par toute cette pluie ?
Alors, la végétation, c'est un très bon exemple qui permet de comprendre pourquoi est-ce que la pluie ne suffit pas. Il faut aussi regarder, par exemple, la température. Petit exemple pour comprendre pourquoi la pluie ne suffit pas, je vais prendre l'humidité. L'humidité en soi, tout le monde sait ce que ça veut dire, tout le monde sait comment on la ressent, mais ce n'est pas la même chose une humidité avec une température forte ou une température basse. C'est pareil pour la végétation, en fait. Il y a de l'eau en ce moment, ce qui est bien pour la végétation, et comme on va rentrer dans le printemps, eh bien, les premières herbes, les premiers arbres vont capter cette eau, ça c'est une bonne chose. Le problème, c'est qu'on a eu un hiver tellement doux qu'en fait, une grande partie de la végétation s'est dit « Hop, c'est bon, je peux sortir, je peux venir voir ce qui se passe. » Donc ça a commencé à bourgeonner et en fait, c'est venu trop tôt. Pourquoi c'est venu trop tôt ? Parce que maintenant, on se prend notamment des périodes de gel qui sont assez classiques sur le mois de mars-avril. Et ce gel, eh ben, il est d'autant plus dramatique quand les bourgeons sont déjà sortis, alors que normalement, ils doivent être cachés en dormance. Donc en fait, ce décalage de saison, le fait qu'il fasse chaud de plus en plus tôt, eh bien, ça perturbe complètement la biodiversité et la végétation, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle ne s'y retrouve pas. Et pour les agriculteurs, ça veut dire notamment des impacts économiques très graves.
Et la sécheresse des sols ?
Alors la sécheresse des sols, elle est très liée forcément à la température. En fait, s'il fait très chaud, évidemment, un sol va transpirer son eau et donc va s'assécher d'autant plus. Ce qui fait que quand il pleut, par exemple, en septembre et qu'on est content, s'il a fait très très chaud avant, ça veut dire que le sol, il n'est pas capable d'absorber la pluie. C'est un peu comme la peau, en fait, qui elle-même peut parfois être sèche ou parfois très humide. En fait, un sol, s'il n'a pas eu de pluie pendant un mois, il ne peut pas se prendre d'un coup 3 jours de pluie, il ne saura pas l'absorber. Donc, en fait, ce qu'il faudrait dans un monde parfait, c'est un peu de pluie un peu tout le temps, des sols qui se gorgent et qui sont capables de transpirer leur eau, et des nappes phréatiques qui se rechargent au bon moment, de façon à ce qu'on ait de l'eau au bon moment quand on en a besoin après. Quoi.
À défaut, on risque les inondations.
À défaut, évidemment, c'est exactement ça qui s'est passé. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le phénomène climatique qui est qu'un sol qui est sec ne peut plus absorber d'eau, des pluies trop diluviennes qui fait que de toutes les façons, on ne sait pas comment les gérer. Et puis à côté, vous avez les facteurs humains. C'est évidemment l'artificialisation, l'urbanisation explosive qui fait qu'on a recouvert la terre de tous ces trous potentiels pour absorber l'eau. Donc la terre ne respire plus, elle est complètement recouverte. Et donc quand il y a beaucoup, beaucoup d'eau qui tombe, et elle ne sait plus quoi faire et donc elle nous inonde en fait. Elle reprend ses droits sur nous. Quoi.
Et qu'est-ce qui s'est passé exactement à Dubaï ? On a vu des pluies violentes, torrentielles, dans un endroit qui normalement est désertique.
Absolument, c'est vrai que c'est très étonnant de voir ces trompes d'eau et on se demande, vu que c'est le désert, pourquoi est-ce que simplement ça ne va pas s'évacuer au-delà ? En fait, à Dubaï, alors, il y a un phénomène climatologique qui s'appelle la goutte froide qui fait qu'en fait ça va... Alors ça a été déjà vu dans l'histoire du climat, donc c'est pas nouveau, mais il se trouve que cette goutte froide qui provoque en fait des dépressions atmosphériques très 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 fortes et donc cette quantité d'eau diluvienne accentué par le changement climatique, qui va retomber sur un sol complètement bétonné, dans lequel effectivement l'eau n'a jamais respiré, puisqu'à Dubaï, comme le disent les climatologues, il n'y a pas de rivière, l'eau ne circule pas dans la ville. Forcément, cette pluie très très importante, combinée à un sol complètement bétonné, fait qu'elle ne sait absolument pas où elle est. Et évidemment, la ville n'était pas prête, vu qu'on a vu que tout a été saturé extrêmement rapidement.
Et pour cause, il y a eu 2 ans de pluie, si j'ai bien compris, qui sont tombées en une journée.
Absolument. Il y a plein de choses qui ont contribué à ça. Au-delà de la goutte froide, il y a effectivement ce sujet qui a beaucoup été discuté sur l'ensemencement des nuages, qui fait que Dubaï, en fait, régulièrement, utilise la chimie pour pouvoir faire pleuvoir davantage. Et donc, on ne sait pas encore quelle est la part, en fait, de responsabilité dans ces pluies, de l'ensemencement humain et du changement climatique ou de la météo en général. Mais on sait que tout ça a fait un cocktail un petit peu explosif, qui fait que les quantités de pluie abattues étaient démentielles et qu'aucune ville, en tout cas certainement pas Dubaï, n'était préparée à absorber toute cette eau.
Un mot sur l'ensemencement des nuages, parce que beaucoup en ont rêvé. On pourrait faire tomber la pluie quand on veut. Qu'est-ce que les spécialistes comme vous en pensent ?
Alors, il y a plusieurs façons de faire pleuvoir un nuage. Bon, il y a l'iodure d'argent qui a beaucoup été utilisé, notamment en Chine, lors des JO. Alors, je ne vais pas me tromper sur l'année, mais il y a quand même une bonne dizaine d'années, parce qu'on voulait qu'il pleuve avant les épreuves. Et on sait que le iodure d'argent, en fait, a des conséquences sur l'environnement qui sont assez graves. Et notamment, en plus, la pluie, ça retombe. Et donc, ça fait retomber le iodure d'argent. Et donc, nous, on en subit les conséquences sur notre santé. À Dubaï, apparemment, ce qu'ils utilisaient, c'était du sel de sodium, qui est un peu moins négatif pour la santé, mais qui, du coup, va saliniser les sols, les océans, enfin, tout ce qu'il y a autour. Donc, il y a quand même cet aspect négatif de renvoyer du sel. Ce qu'il faut savoir, et ça, pas besoin d'être climatologue ou économiste de l'eau, mais on ne peut pas jouer indéfiniment avec la nature, on ne peut pas dompter l'eau de façon indéfinie, on aura toujours, au bout d'un moment, l'eau qui va reprendre ses droits, on ne peut pas faire pleuvoir ou faire beau quand on veut, donc il va falloir commencer à réfléchir à comment s'adapter. Le climat va se déchaîner d'une façon ou d'une autre, donc adaptons-nous en fait le plus rapidement possible.
Alors revenons en France et à ces pluies abondantes des dernières semaines. Quelles conséquences sur les cultures et sur le vin ? Parce que je sais que vous vous intéressez beaucoup au vin.
Oui,
et alors, vous n'êtes pas la seule.
Effectivement, le vin en fait est tellement sensible en fait dans le cycle de la vigne aux températures que c'est pour ça que c'est intéressant de le regarder. Normalement, la vigne, et en tout cas le bourgeonnement, n'intervient pas avant mars-avril, à un moment donné où a priori on se dit que le climat, la température va plus ou moins rester stable et qu'elle va pouvoir en fait commencer sa croissance. Le problème, c'est qu'avec des températures de plus en plus douces, les saisons sont décalées. Si vous voulez, quelque part, ce qui devait se passer en mars-avril commence à se passer en février-mars. C'est pareil pour la saison estivale en général. Maintenant, on ne dit plus que c'est juin-juillet-août, on dit que c'est mai-juin-juillet-août-septembre. Avec plein de conséquences sur l'économie, comme on peut l'imaginer.
Mais donc,
la vigne se réveille plus tôt. Et comme elle se réveille plus tôt, elle subit davantage les conséquences d'un gel tardif, par exemple en mars-avril. La chute des températures en ce moment est telle qu'effectivement, tout ce qui a pu sortir a froid. Nous, on peut s'habiller en conséquence, on peut enlever notre t-shirt, le remettre en fonction de la météo. Une vigne ne peut pas faire ça. Une fois qu'elle est sortie, c'est fini, elle est exposée. Et donc, c'est pour ça qu'en 2021, on a eu un début d'hiver assez chaud. Et puis, d'un coup, un gel tellement brutal qu'en fait, les vignerons ont perdu une quantité catastrophique de leur récolte cette année, par exemple.
On peut donner d'autres exemples que la viticulture ?
Oui, bien sûr, il y en a plein de choses. Alors, c'est vrai que là, je prends un autre exemple. Les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais, en fait, ont inondé des champs de betteraves, notamment des champs de blé, qui font que, alors, première chose, on ne pourra pas récolter ces cultures-là. Donc, ça veut dire que c'est autant de cultures perdues pour l'agriculteur. Mais ça a aussi empêché l'ensemencement de plein d'autres cultures. Ce qui veut dire qu'en fait, les cultures qui auraient dû pouvoir commencer à grandir là n'ont jamais été plantées à ce moment-là. Donc ça va décaler en fait complètement une saison. Donc le pas assez d'eau ou le trop d'eau impacte toutes les cultures quelles qu'elles soient. En fait.
Et la période estivale qui désormais s'étend du mois de mai au mois de septembre, donc mai, juin, juillet, août, septembre, quelles conséquences sur l'économie alors ?
Alors la première chose à laquelle on pense, c'est le tourisme. On sait qu'en ce moment, avec les très beaux week-ends qu'il y a eu en France, le tourisme a repris près des côtes françaises. Ça, c'est une bonne chose. Mais ça veut dire aussi que alors, sur la végétation et donc sur les cours d'eau, si on n'a plus d'eau dans les grandes zones touristiques, si on a moins d'eau, c'est d'autant de tourisme qui ne peut pas être accueilli. On sait que l'Occitanie va avoir des problèmes d'eau cet été. Est-ce qu'ils vont pouvoir accueillir les millions de touristes qui vont arriver ? Ça, c'est une vraie question. Et ça va décaler les régions. Ça veut dire qu'on sait maintenant qu'il fait presque trop chaud dans certaines régions en France, ce qui fait que d'autres régions vont en bénéficier. Donc en fait, c'est plutôt bénéfique pour le tourisme à très court terme, parce que ça veut dire que finalement, la période où les gens vont vouloir partir dépenser leur argent sur le sol français dans le tourisme va être plus grande. Ça, c'est les conséquences économiques court terme, mais évidemment, à moyen long terme, les conséquences pour les autres acteurs qui ne sont pas ceux du tourisme, comme l'agriculture, vont en pâtir, a priori, les conséquences plus rapidement.
Merci Esther Delbourg-Crozer, c'est toujours très clair avec vous. On sait à quoi s'attendre.
Merci beaucoup. Europe 1.